parler de Frédéric Bébé, conversation d'un enfant du siècle à Paris, aux éditions de Grasset. Merci.
Bonsoir, merci beaucoup. Asseyez-vous par terre. Bonsoir.
Merci, comme ça, je connais ce merci.
Donc je rappelle que vous êtes écrivain, journaliste littéraire, chroniqueur télé, cinéaste, patron du mensuel Lui. Il y a d'autres choses?
Non, c'est tout. Non. DJ, disjockey, mannequin pour les Galeries Lafayette.
Un enfant du siècle?
Oui, en fait, l'enfant du siècle, c'était la définition que Musset donnait aux romantiques, un peu, les gens qui s'angoissent pour des conneries, qui ont l'impression d'être à cheval entre deux siècles, deux époques, et de ne rien comprendre à ce qui leur arrive, et puis, voilà, des gens un peu inquiets. Donc j'aime bien. Enfant du siècle, je me reconnais là-dedans. En fait, ça veut dire grand-chose, hein. Mais c'est une allusion à un personnage que j'aime, qui est Octave. Voilà. Octave souffre, il faut le dire. Octave est énervant, mais c'est parce qu'il souffre. Et on l'aime pour ça, on a envie de le consoler. Merci de votre attention.
Donc, ce livre est un florilège d'entretien que vous avez lu entre 1999 et 2014, la première partie du XXIe siècle, avec des auteurs surtout du XXe siècle, avec des monuments comme Albert Cosry, Vendor Messon,
Paul Nison. J'étais très heureux de pouvoir rencontrer. Ce diariste, il tient un journal depuis toujours, un grand écrivain suisse allemand. James Salter, qui malheureusement est mort en juin dernier.
Un an avant, oui.
Qui est pour moi un des plus grands stylistes de la littérature américaine contemporaine. Qui d'autre? Guillaume Bustan, qui a marqué la littérature. De son empreinte, vraiment. Il avait une force, une énergie, une liberté. Ce sont tous ces portraits d'écrivains que j'admire et que j'ai eu la chance de rencontrer. Et parfois, c'est mytho. Hein.
Oui, alors justement, il y a des inventions, comme Charles Bukowski, Francis Fitzgerald.
Voilà.
Pourquoi?
Parce que je crois qu'il faut, il faut parler autant aux vivants qu'aux morts. Et c'est une injustice, on interviewe rarement les morts. Je crois qu'il fallait réparer cette injustice. Et puis j'ai aussi désiré m'entretenir avec moi-même.
Hein, oui, absolument.
Je pensais que c'était nécessaire. Et le résultat, j'espère que c'est une promenade légère, agréable, parmi les hommes d'esprit.
Alors justement, ce livre s'inscrit dans une trilogie qui est consacrée à la littérature. C'est le dernier volet d'une trilogie consacrée à la littérature, notamment à la défense de la littérature et de l'objet livre contre sa version numérique. Ce qui est d'ailleurs l'objet d'un échange avec Bret Easton Ellis, qui parle d'une perte de sensualité avec la perte de l'objet livre. Est-ce que vous pensez que... les écrivains futurs que la littérature pourrait s'en trouver altérée dans l'écriture?
Oui, je pense que c'est déjà le cas. Si on prend le cas du disque, nous savons bien ici, autrefois, moi je venais ici voler des vinyles, il y avait ici énormément de disques en vinyle sur les murs, vous aviez ensuite les CD, et puis tout ça a quand même été un peu balayé. Et les musiciens ne composent plus de la même manière. Aujourd'hui, vous vendez un morceau, disons, à l'unité, quoi, quasiment. C'est assez rare d'avoir un projet où il y ait comme une sorte de voyage, comme Dark Side of the Moon de Pink Floyd, si vous voulez. Donc l'écriture musicale a changé. Je pense que pour l'écriture romanesque, la même chose est en cours. Et d'ailleurs, on voit que les livres sont de plus en plus brefs, à quelques exceptions près. Donc je pense que la numérisation du monde, la transformation du monde en MP3 géant va influencer la littérature et peut-être même accélérer sa disparition. Donc j'ai rencontré ces gens, à chaque fois je leur pose des questions sur cette obsession paranoïaque qui est la mienne. Est-ce que vous pensez que écrire sert encore à quelque chose? Est-ce que vous connaissez des gens qui lisent? Est-ce que vous-même vous savez lire? Et c'est amusant parce que autant Brett Easton Ellis est de mon avis, il y en a d'autres comme James Salter, qui était beaucoup plus âgé, qui lui disait « Mais non, tout ça, c'est pas grave, rien ne disparaît jamais, faut pas s'inquiéter. » Récemment, j'ai encore posé la question à Martin Amis, mais je n'ai pas pu mettre l'entretien dans le livre parce que c'était postérieur. Et il s'est foutu de ma gueule aussi en disant que, de toute façon, la littérature n'avait jamais intéressé plus de 3000 personnes sur Terre et que le fait que des centaines de milliers de gens aient acheté des romans au XXe siècle, c'était une anomalie. Une anomalie qui allait, Dieu merci, être bientôt révolue. Bon, de toute façon, c'est toujours agréable d'avoir des conversations apocalyptiques. Ça crée une sorte de tension dans le débat. Quoi. Est-ce que j'ai raison ou tort? J'en sais rien, j'espère en fait me tromper.
Alors, vous dites que les humains sont la dernière personne intelligente sur Terre. Et ce ne sont pas tous les plus libres. Il y a une liberté de parole. Alors, c'est parce que ce sont. Ces entretiens se déroulent sur le mode de la conversation, souvent autour d'une bonne table, et non pas sur le mode de l'interview. Ça vous définit ça permet quoi? Justement d'être autour d'une bonne table, d'être dans. Parce que je n'ai pas fait le répertoire de tous les bons restaurants que vous citez. Mais est-ce que le décor joue? Qu'est-ce que ça permet ça?
Oui, je crois que la différence entre un interview et une conversation, c'est que dans un interview, il y a quelqu'un qui a préparé une liste de questions et qui sait où il veut aller. Dans une conversation, on commence un peu, salut, ça va? Comment vas-tu en ce moment? Je suis fatigué. Ah bon, pourquoi? Et la conversation va dans une direction qui n'est pas prévue à l'avance. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire là. Et c'est vrai que on se laisse surprendre par les digressions. Et c'est ça que j'aime bien. Si tout d'un coup, on a envie de parler comme avec Simon Liberati de peinture, parce qu'il a été peintre avant d'être romancier, on fait 10 pages sur la peinture. Ou bien, je ne sais pas moi, Michel me parle de ses problèmes de plomberie. Il avait des gros problèmes aussi pour trouver le service des éboueurs en Irlande. Donc c'est intéressant d'aller dans des directions surprenantes.
Et on voit que le décor, l'endroit, il y a cette anecdote alors c'était la première fois que vous le rencontriez, Jay McInerney.
Oui.
Quand vous l'emmenez, alors vous avez, en fait, c'est pas vous qui vous donnez rendez-vous à cet endroit.
Oui, la maison d'édition vous avait donné rendez-vous dans un restaurant un peu, comment on peut dire, design. Aujourd'hui on dirait bistronomie, ou branché, oui, ou je sais pas ce qu'on dirait parce que je suis trop vieux. Mais bon, il était horrifié, évidemment. Il avait envie d'une cuisine française, normale, agréable. Et donc, je l'ai emmené dans un endroit.
Donc, vous sortez de cet endroit.
Oui, on est parti.
Et vous l'emmenez chez l'ami Louis.
Chez Allard, la première fois, oui. Et là, il avait des grenouilles, du foie gras, des escargots. Enfin, il était convaincu, il se sentait bien.
Et on voit que l'entretien prend une tournure.
Oui. Je crois que tout. Il faut, alors évidemment, quand on a un entretien avec un homme politique, il faut absolument lui poser des questions agressives auxquelles il veut éviter de répondre. Mais quand on voit un écrivain qu'on aime, autant que tout soit merveilleux et mettre la personne dans un état d'extase qui fait qu'il va se livrer davantage. Et moi, mon but en faisant ce livre, c'était vraiment de percer à jour le secret de ces gens-là. Je voulais leur voler leur secret de fabrication. Oui, madame?
Est-ce qu'il y a un secret de fabrication commun à chacun ou ils ont tous leur truc?
Non, ils ont tous leur truc. Ils ont tous leur truc. Il y en a qui sont très disciplinés, d'autres qui écrivent n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas de règles. Ce qui m'a fasciné, c'est ça qui m'a intéressé le plus, c'est de voir que le seul point commun entre ces auteurs, finalement, c'est que je les aime. Mais ils n'ont quasiment. Ils ont assez peu à voir. Il y en a qui sont alcooliques, d'autres sobres. Il y en a qui écrivent des livres courts, d'autres des livres extrêmement ambitieux,
donc,
extrêmement longs.
Rien ne les relie à part vous.
Oui, c'est ça. C'est finalement, en fait, en choisissant ces gens-là et en et en sélectionnant ces entretiens, sur une quinzaine d'années, on voit une manière d'autoportrait aussi. On voit vieillir en lisant ce livre. C'est terrible.
Alors, c'est très réussi, il faut le dire. Hein. Il y a beaucoup.
Je l'ai demandé de le dire. C'est moi qui l'ai demandé de le dire.
Il y a beaucoup d'humour, non mais.
Contre de l'argent.
Il y a beaucoup d'humour dans l'impertinence des questions, dans le texte. Alors, je ne peux plus citer parce que j'ai plus de fiches.
Ah, mais non, mais si, vous avez le droit.
Ce que je voulais dire, il y a beaucoup de tendresse, et notamment le nom d'entretien de François Sagan. Pourquoi avoir choisi ce nom d'entretien alors que vous l'aviez rencontré?
Ben, je l'ai rencontré dans un cadre privé, donc je n'ai pas... Enfin, j'avais un petit peu peur de ma mémoire. Parce que quand je l'ai rencontré, on a fait un concours de gin tonic. Et j'ai perdu d'ailleurs, parce qu'elle a triché. Vous savez que Françoise Sagan était très joueuse, elle a gagné une maison comme ça en jouant au casino à Trouville. Elle aimait bien jouer. Et donc le pari, c'était de finir un verre de gin tonic le plus vite possible. Et elle avait pris que du tonic. Mais ça, je l'ai su qu'après. Donc, moi, j'ai bu le verre de gin en entier, mais beaucoup plus lentement. On en était venu à...
Alors,
je n'ai pas raconté ça. J'ai raconté dans le livre... Non, je sais. Je suis dans un restaurant qu'elle aimait beaucoup. Et le jour de sa mort, je raconte le jour de sa mort, où on était quelques-uns à attendre des nouvelles. Et c'est un chapitre assez mélancolique.
Et vous lui écrivez tous des petits mots.
Oui.
Et il y a cette fulgurance de Pierre Falman, ça je me souviens, qui
oui.
dit « La mort ne vous arrive pas à la cheville ».
Oui.
Et c'est très émouvant.
Le chapitre se conclut par « La mort et les chevilles qui enflent ».
Donc, on parlait des portraits, parce que, évidemment, vous avez fait ce livre, on en parlait tout à l'heure, « Défense de la littérature ». Pour être une sorte de passeur, vous donner envie, évidemment, de découvrir ou de redécouvrir ces auteurs, en prolongeant la lecture de votre livre par la lecture de ces auteurs. Et c'est fait grâce à, autrement je le disais, une certaine tendresse qu'on sent chez vous, il y a une bienveillance par rapport à vos interlocuteurs. On le voit notamment avec Alain Finkielkraut, ne passe pas toujours comme quelqu'un de sympathique. Et avec vous, il apparaît presque naïf, décalé. On apprend qu'il aime Et alors, ma question est, comment vous avez réussi à... parce que c'est vraiment... Vous avez réussi à faire des portraits de l'homme dans sa singularité. Et on a l'impression d'être à la table à côté des entendre, en fait. Et vous avez réussi à retranscrire, parce que vous discutez avec eux, etc., vous avez réussi à retranscrire le phrasé, un comportement, des choses dans les digressions. On le voit avec Bernard-Henri Lévy, Michel Houellebecq, avec beaucoup. Vous enregistrez.
Alors, j'enregistre et ensuite je coupe, je monte, je garde ce qui est intéressant, je vire ce qui est nul, et puis j'écris aussi le portrait, je réécris un peu aussi pour que ce soit plus brillant, mes phrases à moi, pour avoir l'air d'être à la hauteur de mes interlocuteurs. Non, puis c'est surtout, je dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé lire. J'ai toujours aimé lire, par exemple... Musique pour Caméléon de Truman Capote, qui est un recueil de ses portraits où il discute avec Marilyn, il discute avec Marlon Brando. Il y a des choses, c'est très très vivant. C'est entre le dialogue et le portrait. C'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple trois pages de questions-réponses, mais on peut aussi tout d'un coup avoir une page où je regarde par la fenêtre et je décris ce que je vois ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est-à-dire que ça, sortir du côté simplement dialoguer. Et qu'est-ce que j'aimais aussi j'adore les livres d'entretien. Emmanuel Berle fait un livre d'entretien avec Patrick Modiano. Il y a Philippe Roth qui avait fait un livre qui s'appelait Shop Talk, Parlons Travail, où il il a réuni des entretiens avec Primo Levi, avec Bello, Singer, tout un tas d'écrivains qu'il admirait. Je pense que là, c'est autre chose, c'est pas un livre qui s'inscrit, ben, c'est ni un roman, ni un essai, mais c'est, en revanche, c'est une promenade, c'est une sorte de flânerie en très agréable compagnie.
C'est ce que vous dites dans la préface, il faut picorer.
Oui, je crois. Je crois pas qu'il faille lire le livre d'un trait parce que c'est indigeste, je pense, d'avoir tous ces gens qui discutent et qui boivent et qui déconnent. Mais en revanche, si on le déguste comme un bon rhum vénézuélien, tranquillement, on passera un moment pas désagréable parce qu'on vit dans une époque où il y a où rarement, enfin, vous avez dit quelque chose de très juste. Les écrivains ont une parole beaucoup plus libre que la moyenne des gens. Tout simplement parce que, d'abord, dans un livre, il n'y a pas de publicité. Donc, on n'est pas soumis aux diktats des annonceurs, déjà. Ensuite, les écrivains n'ont rien à perdre. Les écrivains que j'aime ne cherchent pas à plaire. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. C'est qu'ils ne cherchent... On vit quand même dans un monde... Les médias, la télévision, Internet, tout le monde veut séduire toute la journée. Tout le monde veut être liké. Vous voyez, c'est comme si les gens dans notre époque passaient tous un casting en permanence et voulaient être choisis. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de s'asseoir, de boire une bouteille de vin et de parler de la vérité. Voilà ce que j'essaie de faire dans ce livre.
Et oui, alors ça revient souvent. Il y a plusieurs thèmes qui reviennent souvent. L'écrivain du futil, de la légèreté, celui du sérieux, de la profondeur. Le paraître, justement. Faut-il se cacher ou faut-il... on est dans une société de paraître, vous voulez dire.
C'est vrai que c'est une question qui se pose de manière récurrente et que je demande... Je demande ça à tous les écrivains que je vois parce que... il est compliqué de disparaître, mais c'est la seule... position respectable quand on est un écrivain. Un écrivain ne devrait pas donner des conférences à la FNAC. Un écrivain ne devrait pas...
C'est vrai. Vous parlez, vous citez Kundera à Saint-Nigeur.
Oui, Kundera à Saint-Nigeur, c'est des exemples. Blanchot, oui, bien sûr. Parce que, au fond, ce qu'on demande à un écrivain, c'est d'écrire. Tout le reste, c'est bidon. Mais je le pense. Donc, par contre, je suis toujours un peu coupable de m'afficher, de me montrer partout, de passer à la télé et tout ça. Il faut le savoir qu'on est, on fait un peu le tapin, on est un peu des prostituées, quoi. C'est pas grave.
Alors, vous dites ça beaucoup plus joli.
J'ai beaucoup de respect pour ce métier.
Vous parlez du biographème de Roland Barthes.
Oui.
Alors,
les écrivains, donc, ne sont pas jugés que sur leur livre, ils sont jugés sur leur biographie, sur les aspects de leur biographie, ce que Barthes appelle les biographèmes, par exemple, c'est un ou deux éléments dont on se souvient. Par exemple, François Sagan, c'est la voiture, la Jaguar, les accidents, la cocaïne.
Vous le dites avec Tom Wolfe.
Tom Wolfe, c'est son costume blanc, mais lui, il a carrément choisi de créer un biographème.
Oui, oui.
Comme ça, on se souvient de lui. Oui, on se souvient, il est remarqué, et puis on parle de ça, et pendant ce temps-là, on l'emmerde pas sur d'autres sujets. Et au fond, voilà, donc chacun doit... Il y en a qui l'ont organisé, et d'autres pas. Je sais par exemple que Amélie Nothomb, qui est une amie, déteste qu'on lui parle des fruits pourris. Mais pourtant, c'est ce que tout le monde a retenu comme biographème, c'est qu'elle mangeait des fruits pourris au début, il y a 25 ans. Maintenant, on a plus retenu les chapeaux. C'est vraiment. Alors, c'est idiot, oui, c'est vraiment bête, mais en même temps, c'est comme ça. Et on nous enseigne la littérature comme ça. C'est pas du tout. Ce n'est pas interdit de trouver ça intéressant. Moi, je trouve que c'est passionnant. Hein. Je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec Proust sur ce point. Proust, dans Contre Sainte-Beuve, explique que le moi social de l'écrivain n'a rien à voir avec son écriture et qu'il faut séparer le livre et l'auteur. Je ne crois pas ça du tout. Je crois que si je lis Bret Easton Ellis, c'est parce que je sais qui il est, je sais que c'est un New-Yorkais émigré à Los Angeles, qu'il est complètement angoissé, qu'il est bisexuel... qu'il a eu une phase très droguée, et ça, tout ça, ces côtés-là m'intéressent. C'est valable pour Scott Fitzgerald, pour Hemingway, pour tout tous les écrivains qu'on aime, on s'intéresse à ces aspérités de leur biographie. Donc évidemment, on parle beaucoup de ça. Quand je rencontre, quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, évidemment, je ne résiste pas au plaisir de lui poser la question. Comment faites-vous pour aller dans une guerre et le lendemain dans un hôtel 5 étoiles aux Seychelles? Est-ce qu'il y a une contradiction ou pas? En quoi est-ce possible? Et il s'en fout complètement.
Il a raison. Il aussi d'avoir son âge un peu. De 60 ans, ça suffit. Il s'en fout aussi complètement.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je ne suis pas là pour dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. Hein.
Est-ce qu'il y a quels sont les grands absents de ce recueil? Des gens que vous auriez voulu interviewer et...
Il y en a beaucoup, bien sûr.
Voilà.
J'ai eu la chance de rencontrer Antoine Blondin, mais je n'ai jamais interviewé, je regrette. J'ai croisé Patrick Modiano, et je n'ai pas pu encore avoir une conversation avec lui.
Kundera,
que j'ai connu aussi, mais c'est compliqué parce que ce sont des gens sans leur accord. On ne peut pas, et on n'a pas envie de les trahir, on ne peut pas raconter ce qu'on a vécu avec eux. Donc moi, tant qu'ils ne sont pas d'accord, je ne raconterai pas. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas du tout un livre, voyeuriste. C'est un livre, ce sont des conversations, certaines sont, c'est des enregistrements intégraux. Qui avaient été coupés dans la presse et qui sont là en version intégrale. Donc c'est ma seule trahison, si vous voulez, dans le livre. Mais l'ambiance du livre est très apaisée, calme et sereine.
Ah oui, on a même le sentiment que tout le monde s'amuse beaucoup.
Je crois qu'il faut éviter de s'emmerder dans la vie.
Et puis, vous parlez souvent de légèreté, etc., mais il y a plein de questions qui sont évidemment qui émergent. Notamment, je pense à Jem Akinormay, que vous rencontrez pour la première fois en 2003. Vous venez de publier Windows on the World. Lui, en pleine écriture de The Good Life. Les deux sont sur les attentats du 11 septembre. Et là, on sent que vous n'êtes plus l'écrivain qui s'excuse, qui est en admiration et tout. On sent plus un partage d'écrivain à écrivain, parce que même un besoin presque d'être rassuré, puisque vous dites que le livre est jugé obscène, inadmissible, et vous lui posez cette question l'appropriation d'un événement de cette ampleur par la littérature, avec la question de la distance qu'on doit avoir. Je crois que c'est Norman Mailer qui disait il faut avoir 10 ans, il faut mettre 10 ans avant de parler de cette distance-là. Et alors lui dit, vous avez la distance kilométrique alors que moi j'ai besoin un peu plus de temps, etc. Vous êtes d'accord avec cette distance?
De toute façon, un roman, ça a toujours besoin de recul. Sinon, on fait du journalisme.
La douleur de Marguerite Duras, elle décrit pendant la guerre. Elle dit même, alors c'est ce qu'elle dit, mais qu'elle l'a oublié, ça s'est tiré des cahiers de la guerre, il n'y a aucune distance.
Oui, elle ne l'a pas oublié au moment où c'est arrivé.
Parce qu'eux disent qu'il faut...
Après, combien d'années il faut après un événement pour bien le comprendre et bien le digérer, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut... Ce que j'aime dans le roman, c'est justement que le roman, c'est un prisme, c'est une manière de regarder la réalité déformée. Et ce qui compte dans une histoire, c'est ce qu'on en retire après un petit moment quand même. Jay, lui, il dit que comme j'étais loin de New York, du coup, j'avais une liberté que lui n'avait pas, ayant vécu l'événement sur place, et donc il avait besoin de plus de temps. Et c'est intéressant comme point de vue, comme si la géographie pouvait compenser l'histoire, quoi. Mais enfin, en tout cas, c'est certain que je serai toujours dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut écrire tous les livres sur la réalité, y compris quand ils sont gênants, quand ils sont obscènes, quand ils sont dérangeants. Je pense par exemple à La Zone d'intérêt de Martin Amis, le livre qu'il a publié là et qui a été refusé chez Gallimard, qui est un roman qui se passe à Auschwitz. Oui, c'est dangereux, oui, c'est atroce, c'est d'une lecture assez insoutenable, mais il faut écrire ce genre de livre. Le roman est là pour ça, pour plonger dans le, comme dit Kafka, pour être la hache qui brise la mer gelée en nous. Merci.
Dernière question, ensuite on passera aux dédicaces. Il est question de cinéma. Évidemment, vous parlez beaucoup de cinéma, vous parlez de cinéma avec Simon Liberati, avec Michel Houellebecq. C'est assez drôle puisque vous dites à Michel Houellebecq que jamais vous n'adapterez un de vos livres au cinéma, et puis finalement vous le faites. Et d'ailleurs, vous venez de terminer la réalisation de l'idéal. Deuxième, Au secours, au revoir.
Au secours, pardon. Ouais. Ouais, c'est l'adaptation de Au secours, pardon, qui est l'histoire d'un Français expatrié à Moscou qui est chasseur de mannequins. Et on a tourné ça en juillet-août et le film sortira en mai 2016. Oui, c'est vrai que j'aurais pu couper ce passage où je suis ridicule, puisque je dis non, jamais de la vie je ne ferai du cinéma, tous les écrivains qui deviennent cinéastes sont des connards et tout ça. Évidemment, je l'ai laissé. Pour voilà, montrer que je suis une sorte de girouette incapable de tenir le moindre engagement.
Vous savez que vous avez beaucoup de Twitter russes maintenant, des profils Twitter russes.
Ouais. Ah bon, c'est vrai?
J'ai vu ça, ouais.
Et ça sert à quoi?
Je sais pas.
D'accord.
La question est...
Pourquoi tout ça?
Non, qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi certains pourquoi écrivains ont
alors la question du pourquoi, eh bien,
pourquoi certains écrivains ont tellement envie d'adapter cinématographique
Pour bien comprendre, il nous faut remonter au 19e siècle. Je rappelle que tous les romanciers rêvaient d'écrire pour le théâtre. C'était le genre populaire, le genre qui rapportait de l'argent, de la notoriété et des comédiennes. Je pense que c'est exactement la même chose avec le cinéma aujourd'hui. Un écrivain, c'est quelqu'un qui vit enfermé dans un monde imaginaire, qui ne voit personne. C'est très pénible, très douloureux. Et quand on lui propose d'aller sur un plateau avec des comédiennes et de faire un film dont on va parler, qui sera peut-être un succès... Disons qu'il y a quelque chose d'assez excitant. Il est compliqué de refuser. C'est une tentation à laquelle on a du mal à résister.
On vous voit mal en écrivain, reclus, seul avec lui-même.
Je suis pieds nus dans la neige. Je souffre, je m'arrache les cheveux. Si vous saviez. Non, mais les gens ont besoin de croire qu'on souffre. Depuis Flaubert, je pense.
D'ailleurs, votre biographie, c'est que vous souffrez énormément. Ouais. Vous êtes.
Non, moi, c'est que je ne sais pas ce que les gens vont retenir, à part le rail de coke sur un capot de bagnole. Je pense que c'est tout ce que les gens vont retenir de toute mon œuvre. C'est terrifiant. Et oui, les gens diront oh, bah oui, mais lui, il ne fait que rigoler, et en fait. Son œuvre n'a strictement aucun intérêt.
Vous avez peur de ça, hein. La postérité, vous en parlez avec Jean d'Ormesson. La question se pose de cet écrivain léger contre celui du sérieux qui reste ou pas.
Vous savez qu'il a été tellement enchanté d'être dans la Pléiade pour cette raison-là, parce qu'il a toujours peur. Comme tous les gens qui écrivent, on est effrayés, on est persuadés
mais
que...
Mais lui, il chie sur la littérature contemporaine.
Ah oui, c'est vrai, il a dit ça, oui, c'était drôle ça. Mais donc on s'est égaré là, on est parti. Ça c'est une vraie conversation. Ouais, ça y est, on est parti. Mais je dirais que un écrivain qui vous dit je m'en fous de ma postérité, eh ben ça n'est pas un écrivain.
Non. D'ailleurs, James Salter disait j'écris pour que les choses ne disparaissent pas.
C'est vrai. Et j'aime beaucoup ce que dit Albert Cosri aussi. J'écris pour que mon lecteur n'aille pas au bureau le lendemain. C'est une ambition, ça. Mais voilà. Ça a marché avec moi, vous savez, parce que je ne vais plus au bureau. J'ai plus de bureau.
Moi non plus.
Donc ça a marché avec nous deux.
Merci. J'aimerais continuer longtemps, mais ça ne va pas être possible. Nous allons passer au... dédicace. Voilà.
Merci.
On va demander de rester à vos places, parce qu'on a une manière de gérer le sens des dédicaces. Donc on va appeler rang par rang, et ensuite on va gérer les gens qui sont dédicaces. Voilà, merci. Ne bougez surtout pas. Merci.